I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour parler d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Et petit rappel avant de démarrer l'émission, Année Lumière a désormais son Tipeee, donc si vous aimez l'émission et que vous voulez la soutenir, même modestement, vous pouvez le faire sur tipeee.com/Année Lumière. C'est libre sans engagement et ça m'aide à produire la meilleure des émissions possibles. Ce mois-ci, mon invité est une journaliste. Elle est cofondatrice et rédactrice en chef du magazine mensuel Cinématiseur qui vient de fêter son 100e numéro. Elle est également spécialiste, je dirais même experte du cinéma américain.
Ça.
C'est Emmanuel Spalacenta. Salut Emmanuel.
Salut Thibaut.
Comment ça va?
Bon, plutôt pas mal.
Plutôt pas mal.
Considering.
Je suis très très content de t'avoir dans l'émission.
Moi, je suis très contente d'être là.
Eh bien, écoute, c'est très, parfait. Très alors, ce mois-ci, on retourne au milieu des années 90 pour une année de cinéma hallucinante, avec un nombre fou de films de qualité, ou en tout cas mémorables, un millésime de petites révolutions, d'œuvres générationnelles et de nouvelles propositions prometteuses. Pendant qu'aux États-Unis on réinvente l'image, en France, on tape là où ça fait mal et ça fait du bien. Certains font tout péter à l'écran, d'autres nous montrent l'amour comme personne ou nous invitent à regarder plus haut, toujours plus haut, vers l'infini et au-delà. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 1995. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night. Gangsta's Paradise de Coolio, on écoutait ça en 95, une musique de cinéma d'ailleurs, puisqu'elle est issue du film Esprit Rebelle avec Michelle Pfeiffer. Emma, pourquoi 95? Puisque c'est l'invité évidemment qui choisit l'année dont on parle. Pourquoi 1995? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette année, cette période-là?
C'est hyper personnel parce que en fait, je crois qu'avant 1995, j'avais pas le droit d'aller au cinéma toute seule.
D'accord.
Et en fait, en 1995, j'avais donc 15 ans. Mon père m'a enfin autorisé à aller à sortir seule. Bon, c'était le mercredi après-midi évidemment et les samedis après-midi, mais je pouvais enfin aller au cinéma toute seule.
Ouais.
Et j'y allais souvent d'ailleurs toute seule ou avec des copines, mais c'était plus rare. Et j'allais au cinéma Roxane et le Cyrano aussi à Versailles.
Oh.
Ouais. Et donc là, autant jusque-là, ma culture s'était faite via la VHS,
ouais.
Autant là, d'un coup, je me suis vraiment éveillée à tout un cinéma. Je faisais les choix moi-même. Enfin, c'était vraiment, je crois, l'année de mon émancipation, de cinéma.
Une année d'émancipation cinéphile. Alors 95, c'est l'année, entre autres, de l'entrée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède dans l'Union européenne, qui passe donc à 15 pays membres. L'année également où Jacques Chirac devient le président de la République, notamment, souvenez-vous, grâce à son fameux slogan « Manger des pommes ». En beaucoup moins drôle, 95, c'est aussi l'année du génocide des Srebrenica en Bosnie, où 8000 Bosniaques musulmans sont massacrés par les forces serbes, et de l'attentat d'Oklahoma City, qui fait 168 morts et restera le plus meurtrier sur le sol américain jusqu'au 11 septembre. 95, c'est aussi le moment où le Global Positioning System, le fameux GPS, devient pleinement opérationnel. C'est l'année du retour de Michael Jordan aux Chicago Bulls après sa première retraite sportive et de la sortie mondiale de la console PlayStation qui verra les jeux cultes Metal Gear Solid, Final Fantasy, Tekken ou encore Crash Bandicoot. Elle était sortie fin 94 exclusivement au Japon. Mais 95, c'est aussi et surtout du cinéma, et du très très beau cinéma. Alors que Val Kilmer devient le nouveau Chevalier Noir dans Batman Forever, et que Pierce Brosnan est le nouveau James Bond dans GoldenEye, les films mémorables sont nombreux, accrochez-vous. Apollo 13, L'Armée des Douze Singes, Sur la route de Madison, Raison et Sentiment, Une journée en enfer, Pocahontas, Jumanji, Braveheart, Usual Suspect, Heat de Michael Mann, Casino de Martin Scorsese, et tout ça, ce n'est que le cinéma américain. Dans le reste du monde, on a Ghost in the Shell et Les Anges Déchus de Wong Kar-wai. Underground d'Emir Kusturica remporte la Palme d'Or et le cinéma français signe une très belle année avec La Cité des Enfants Perdus, La Cérémonie de Chabrol, Le Bonheur dans le Pré, Gazon Maudit ou encore Les Trois Frères. Mais avant de filer dans l'Hexagone, c'est bien en Amérique où on va s'installer pour notre premier thème. Cette année-là, deux réalisateurs sortent deux films sous forme de manifeste. Deux films qui vont lancer leur carrière, imprimer durablement le cinéma américain et réinventer l'image et aussi un peu la manière dont on la regarde. Pas étonnant, ces deux hommes viennent de la même école. Ces réalisateurs s'appellent Michael Bay et David Fincher et on va parler bien sûr de Bad Boys et Seven. Cette musique étrange, dérangeante, angoissante peut-être, c'est celle, vous l'aurez reconnu, du générique d'ouverture de Seven de David Fincher. C'est donc un film avec Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow entre autres, et qui raconte, pour faire bref, vous l'avez tous vu, mais qui raconte l'histoire des inspecteurs Mills et Somerset qui enquêtent sur les meurtres d'un certain John Doe, un meurtrier qui tue selon la logique des sept péchés capitaux. C'est donc le deuxième film de David Fincher après Alien 3 en 92, le deuxième long métrage. Mais en 95, David Fincher, c'est déjà, et avant de faire des films au cinéma, c'est avant tout un énorme réal de clips et de pubs. Il a réalisé plus de 60 clips et 60 pubs entre 84 et 95. Et il arrive et il met son empreinte avec ce film Seven, qui est un film qui va réinventer un peu le genre du film noir. C'est un film qui a été souvent appelé comme un film néo-noir, véritablement. Et toi, quand on en parlait, quand on préparait l'émission, Emma, tu m'as dit, tu as utilisé ce mot, une œuvre séminale. Dans quel sens Seven est une œuvre séminale, est un film séminal?
Comme tu l'as dit, il a donc réinventé le film noir, réinventé le thriller, etc. Il a aujourd'hui encore, il marque tout un pan du cinéma coréen, un cinéma de genre coréen. Les Bong Joon-ho, tout ça, sont très très inspirés par Fincher et par Seven en particulier. Donc c'est la conséquence finalement la moins peut-être évidente, ouais. Mais en tous les cas, c'est peut-être l'une des plus intéressantes. Et puis encore aujourd'hui, cette manière extrêmement noire de décrire des villes. Mais lui-même, ceci dit, est très inspiré par le travail de Ridley Scott ou plein de choses comme ça. Donc non, je crois qu'il a vraiment marqué. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a... Je ne suis pas sûre qu'à part Zodiac, finalement, on n'ait pas fait, on ait fait meilleur film, tu vois, meilleur polar et meilleur film noir depuis, quoi.
Ouais, meilleur film de serial killer, véritablement. Ouais.
Non, ouais, il est séminal parce qu'il influence encore aujourd'hui. On est 25 ans après, quand ouais. même. Hein. Toujours le cinéma de genre américain, quoi.
Et c'est vrai que quand il est sorti en 95, donc il a marqué véritablement. Et c'est un beau succès de box-office. C'est pas un carton fort, mais ça marche bien. Et du coup, dans sa suite, il y a tout de suite un espèce de retour du genre serial killer movie dans les années qui suivent, parce que t'as The Bone Collector, t'as From Hell, t'as une espèce de série de films qui disent « Oh là là, il y a un créneau !» C'est d'ailleurs The Bone Collector avec Morgan Freeman également. Ouais. Et après, plus tard, tu vas retrouver, tu disais le cinéma coréen. Outre le cinéma coréen, ils sont où les héritiers de Seven et la descendance, l'héritage de Seven, ils se trouvent où, outre le cinéma coréen?
T'as une bonne question.
Dans le cinéma américain, par exemple. Moi, j'ai du mal à le...
Ouais, moi, c'est pareil. Qui peut se revendiquer de Fincher aujourd'hui?
C'est un genre à part entière, le cinéma fincherien.
Ouais, parce que c'est... En fait, c'est...
Y a que lui qui le fait,
c'est
quoi.
Ouais. Ah oui. Il y a une vraie cruauté, psychologique notamment, que lui seul, je trouve, maîtrise comme ça.
Lui, il qualifie son cinéma d'un cinéma pervers et cynique un peu.
Oui, cynique, oui, mais bon, après, ça, c'est lui aussi.
Oui, c'est ce qu'il dit lui-même sur le cinéma. C'est après, ses films racontent peut-être autre chose.
Mais... Il a, je crois, ce don et ce talent pour se vendre en slogan. Et allez, admettons que c'est du cinéma pervers et cynique. Je pense que ça l'arrange.
Tu as dit que Fincher avait le chic pour faire des bons slogans, notamment en parlant de lui. Bah, du coup, je vais directement enchaîner sur le deuxième film de ce thème, puisqu'en 95 sort, en plus de Seven, Bad Boys de Michael Bay. Alors, vous allez dire, mais pourquoi est-ce que vous foutez Seven à côté de Bad Boys, ces deux films qui n'ont pas grand-chose à voir? Eh bien, détrompez-vous, puisque Bad Boys, c'est donc le premier long-métrage de Michael Bay, réalisateur, rappelons-le, de films sublimes comme Rock, Armageddon ou Transformers. Et David Fincher et Michael Bay ont un point commun, en plus d'être américains. Ce sont deux réalisateurs majeurs issus de ce qu'on appelle la génération propaganda. Alors, c'est un terme que moi, je l'avoue, je ne connaissais pas du tout. Propaganda, je ne voyais pas ce que c'était. J'avais vu le voir passer, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, Emma, c'est quoi Propaganda ? Pourquoi on parle de génération Propaganda ?
Propaganda, c'est une société de production qui a été montée au milieu des années 80 par 5 hommes, dont David Fincher, et qui était spécialisée dans le clip. Si tu prends la clipographie de Propaganda, tu verras les plus grands clips des années 80. Fin 80, début 90, ouais. C'est eux. C'est assez incroyable. Sur Madonna, par exemple, bah, t'as Oh Father, Vogue, Express Yourself, et, évidemment. Et puis Bad Girl, tout ça, c'est Fincher sous la houlette Propaganda.
Donc des clips cultes, véritablement, culte, des années 80, ouais. 90.
Ils sont nés, si tu veux, avec la génération MTV, enfin avec le clip.
Donc, ils ont participé de l'essor de MTV. Moi, j'ai lu que Propaganda... en 90, était responsable de un tiers des clips musicaux aux États-Unis. Et donc, on a dit Madonna, Guns N' Roses, Janet Jackson, Gangsta Paradise qu'on a écouté. C'est aussi un clip de produit par Propaganda.
Meatloaf, I Do Anything For You, là. C'est Michael Bay. Ouais. C'est ce qui lui a d'ailleurs valu une rencontre avec Bruckheimer après. Le truc, c'est que le clip, c'est de la musique, mais c'est aussi de l'image. Hein. C'est un peu con ce que je dis, mais en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il fallait des gens qui pouvaient vendre l'image de ces gens qu'on écoutait. Et d'un coup, il fallait construire une image autour de... Tu vois, c'est au-delà de la pochette de disque. Il fallait que le clip assoie, si tu veux, une identité visuelle pour chaque artiste. Et eux, ils étaient là pour ça. Ils étaient extrêmement doués pour ça. Donc, ça a commencé à 5. Et donc, ils ont été engagés. Enfin, ils étaient extrêmement doués. C'était des vrais storytellers visuels.
Ben, c'est drôle parce que sur le fondateur de Propaganda, il a une citation, donc Sigurjón Sigfusson, il a une citation sur Propaganda. Il dit « Nous avons été la première entreprise à vouloir appliquer les principes de l'industrie publicitaire aux vidéoclips. » Et nous voulions aussi prendre l'esthétique des vidéoclips et les appliquer aux publicités. T'as ce côté, avant on faisait des clips pour de la musique et c'était des trucs un peu pas plan-plan, mais c'était des clips pour de la musique. Et d'un autre côté, t'avais les publicités, mais il fallait en 30 secondes saisir l'intention des spectateurs à la télé parce que le créneau était très court. Et lui, il a appliqué cette logique publicitaire au clip et du coup, a donné maintenant les clips d'années 90 qui sont très catchy et
Le clip, c'était une manière de vendre un artiste. Voilà, que c'était sur 3 minutes 30 au lieu de 30 secondes, mais c'était ça. Il fallait reconnaître une chanson, un artiste. Et donc, c'est ça qu'ils étaient chargés de faire. Une identité, une étiquette visuelle. C'est effectivement ça, c'est vraiment le principe de la publicité.
Tu as cette logique de l'image incessante, de toujours avoir un œil sollicité. Et c'est vrai que quand on parle d'image incessante, image en mouvement, œil sollicité en permanence, etc., etc., c'est vrai que Michael Bay, tout de suite, ça a du sens. Ça fait du sens parce que Michael Bay, le cinéma, c'est un cinéma qui est tout le temps en mouvement. S'il y a bien quelque chose qui définit Michael Bay, c'est le mouvement.
Ouais.
Et Fincher, c'est quelqu'un qui capte le regard en permanence dans chacun de ses plans, même si c'est un cinéma qui est peut-être plus posé à première vue comme ça. C'est un cinéma qui est quand même très captivant.
Ce qui rapproche Fincher et Michael Bay, c'est qu'effectivement, le visuel a un impact. Au-delà de raconter une histoire, il y a un impact vraiment. Effectivement, Michael Bay, c'est quelqu'un qui construit son mouvement d'une manière absolument virtuose. Enfin, je veux dire, il y a un nombre de plans en mouvement, enfin, de plans en profondeur, je parle.
Bien sûr.
En mouvement chez Michael Bay, qui est quand même, je crois,
il y a des couches différentes, en arrière-plan, au premier plan, au milieu, enfin, il y a des trucs assez...
La construction du mouvement chez Michael Bay est incroyable.
Pour terminer sur Propaganda Film, c'est aussi, au-delà d'être une boîte de prod qui a fait des clips et des pubs, c'est aussi une compagnie qui a produit ensuite des séries télé et des films, et c'est quand même la compagnie qui a également produit Beverly Hills, la série, et Twin Peaks.
Ouais.
Et qui a produit des films comme Dans la peau de John Malkovich, C'est l'heure et Lula, Candyman, The Game. Donc c'est quand même un producteur américain dont moi j'avais vraiment pas entendu parler, mais qu'on a tous vu. En tout cas, on a tous vu leurs films véritablement.
Twin Peaks, c'était une manière pour eux d'infiltrer vraiment le storytelling long, et c'est une sorte d'antichambre du cinéma, de leurs vraies ambitions de cinéma. Beverly Hills, c'est vraiment ce qu'ils savaient faire parfaitement, c'est-à-dire cette esthétique MTV, ce truc pour parler à une génération qui avait été biberonnée comme ça au clip justement et à la pub. Et donc voilà, ça ils font ça parfaitement bien. Mais c'est ça qu'il faut retenir finalement de Propaganda, c'est que finalement cette imagerie des années 80, fin 80, début 90, cette imagerie MTV comme on dit aujourd'hui, c'est quasiment eux qui l'ont forgée.
Ça a été un tremplin phénoménal pour une pelletée de réalisateurs. Donc là, on a Fincher, Michael Bay,
on a Antoine Fuqua.
Moi, je pense à Gore Verbinski. ouais. Enfin, des gens, Gore Verbinski, moi, c'est l'un des réalisateurs que je trouve les plus passionnants visuellement, parce que, enfin, regardez La Souris, qui est l'un des chefs-d'œuvre. Ouais, La Souris, son premier film qui est visuellement phénoménal.
Bref, Marc Romanek aussi.
Marc Romanek, enfin, une génération de réalisateurs assez dingue.
Ouais, ouais, bah, ceux qui voulaient se faire la main sur. Sur le clip et la pub, et surtout, ça leur permettait aussi d'avoir des budgets extrêmement conséquents. Bien parce sûr. Qu'à l'époque, c'était des industries qui généraient un max de pognon, on ne se rend pas compte, mais souvent, les clips étaient parmi les productions les plus chères. On parle de Janet Jackson, de Madonna, voilà, c'était ces grosses pop stars-là qui voulaient chercher du sang frais, du sang neuf, de l'imagination, de l'innovation aussi technologique. Parce que mine de rien, dans le clip et la pub, justement, avec ces moyens-là, ils pouvaient innover techniquement. Et donc après, toutes ces innovations techniques, les réalisateurs les ont prises pour faire du cinéma.
Quand ils ont fait changer la pub et le clip de dimension, véritablement.
Ah bah oui, oui. Ouais. Donc voilà à quel point ils ont forgé l'imagerie américaine fin 80, début 90.
Quelle passerelle magnifique, parce que en parlant d'imagerie américaine, donc en 95, on en a parlé, il y a Bad Boys de Michael Bay, un film avec Will Smith, Martin Lawrence, Téa Leoni, Chicky Cario. Donc le premier long métrage de Michael Bay qui veut lancer une carrière d'un réalisateur qui va quand même définir une certaine image de l'Amérique, tu l'as dit, et des blockbusters américains. C'est vrai que le style Michael Bay, c'est un style qui est unique. Ouais. Le style de Michael Bay est quand même des héritiers et est encore visible dans le cinéma de blockbuster actuel. Voilà, c'est quand même quelque chose qui a impacté et influencé un cinéma américain qui est encore en cours actuellement. Notamment parce que le langage visuel de Michael Bay est unique et à part entière et il a un nom, ce langage visuel. Il a été nommé, il s'appelle le Bayhem, parce que le mélange de Michael Bay et de Mayhem, qui veut dire chaos en anglais. C'est quoi le Bayhem? Comment tu définirais le Bayhem?
C'est la surprise permanente de voir tout exploser, l'outrance permanente aussi dans les costumes, les nanas, les voitures. On n'a jamais de petites voitures, on n'a jamais de petites nanas, on n'a jamais de mecs pas beaux. On a cette espèce d'idéalisation totale du cinéma. Il fait de la fiction, lui. Hein, il, c'est pas, voilà, il assume le côté cinéma de ses films. Tu veux, il a vendu une certaine idée de l'Amérique, notamment. Oui. Quelque chose d'assez pompier, assez... peut-être même un peu vulgaire, donc avec des nanas un peu à poil, voilà, il a ça, quoi, des grosses voitures, des choses comme ça. C'est ça, sa vision, en tous les cas, de vendre quelque chose. C'est cette espèce de chaos organisé, en fait, où tout explose, où on a l'impression que c'est n'importe quoi, alors qu'on a rarement vu un chorégraphe pareil.
Oui.
Alors, il est décrié, hein, parfois, on dit, ouais, sur ses plateaux, il fait n'importe quoi. Là, récemment, il y a une vidéo qui est tombée où une voiture fait des tonneaux, non ?
C'est dangereux, t'as un tecos qui essaie de se faire écraser.
Voilà, c'est ça. Personnellement, je suis allée une fois sur un tournage de Michael Bay, c'est réglé comme du papier à musique. Hein.
Enfin, c'est quel tournage ?
C'était Transformers 4.
Oh là là, mais quelle chance ! Et alors ?
Génial.
C'est génial ?
Bah oui.
T'es à Disneyland, quoi.
C'est ça. Et oui, en même temps, il y a quelque chose d'assez martial quand même, tu vois. Enfin, tout le monde est en ordre de bataille parce que c'est justement, moi...
C'est dangereux, il y a beaucoup de moyens.
C'est dangereux, il y a énormément de moyens, ça coûte très cher. Donc oui, c'est quand il y a un plan, ça prend une matinée... Mais le mythe de Michael Bay avec son porte-voix qui hurle, c'est pas un mythe.
C'est vraiment ça.
Mais c'est vraiment génial à voir.
On peut se dire effectivement, ah bah tiens, c'est Michael Bay, c'est quelqu'un, on peut laconiquement dire, il fait tout exploser à l'écran et on s'arrête là. Mais il y a un art de faire exploser l'écran véritablement. Et c'est vrai que quand on regarde The Rock, Pearl Harbor, Bad Boys, Transformers, posez-vous devant son image, il y a quelque chose d'assez fascinant. Moi, j'ai découvert Bad Boys pour l'émission que je n'avais pas vu. C'est vrai que dès Bad Boys, il y a tout le temps quelque chose qui se passe à l'image. Et c'est vrai que comme ça nous semble comme facile et acquis, mais quand on regarde des gens qui essayent de copier Michael Bay et qu'ils le font moins bien, et ça marche beaucoup moins bien, et on voit la différence.
C'est une chorégraphie. C'est une chorégraphie, on ne peut pas nier que c'est un vrai chorégraphe, quoi. C'est-à-dire que comme on disait tout à l'heure sur... sur une profondeur de champ énorme, il se passe quand même énormément de choses à l'écran, quoi. Ça traverse en vertical, ça traverse en horizontal, en diagonale, il y en a partout. C'est vrai que c'est des feux d'artifice. Alors on peut le décrier en disant qu'il se passe pas grand-chose intellectuellement dans ces films. Après, je trouve que ça dépend des films. Hein. Je trouve que c'est encore une idée reçue. Sur un film comme Bad Boys, toutes les bases sont posées, quoi. C'est-à-dire cette espèce de un peu de vulgarité, ça on peut pas le nier. Mais après, la vulgarité, c'est ça peut être aussi joliment filmé. Et lui, je trouve qu'il le filme particulièrement bien, quoi.
Il y a un débat qui se fait que est-ce que Michael Bay est une énorme arnaque ? Il y en a qui disent non, c'est un génie incompris. Emma, dis-nous tout. Est-ce que Michael Bay était un génie? Est-ce que Michael Bay est une arnaque? La réponse maintenant.
Michael Bay, c'est un génie, mais
voilà, après, merci
ça
beaucoup.
Ça n'engage que moi. Non, mais c'est...
C'est un cinéma passionnant et intéressant.
Alors, après qu'il soit en dessous au niveau du storytelling, ces scénarios sont jamais très poussés. Et encore, ça se discute quand on parle de Pain and Gain ou de 13 Hours. Mais il a un don comme personne pour visuellement raconter des choses. C'est quasiment de la peinture, quoi, ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, composer des cadres comme il le fait, lui. Alors, après, bien sûr, Bad Boys, c'est un projet fait pour vendre Martin Lawrence et vendre Will Smith comme des stars de cinéma. Will Smith, il fait encore le Prince de Bel-Air quand on est chez...
Oui, c'est le film qui va le révéler véritablement, et l'année suivante, il fait Independence Day.
Je crois qu'il a fait 7 degrés de séparation juste avant, mais ça le vend littéralement comme une action star, Will Smith. Donc en fait, c'est là aussi le talent de Michael Bay. C'est pas tout le monde qui sait le faire, ça. Donc il prend deux stars afro-américaines qui propulsent encore plus loin que leur fanbase... Et d'un coup, c'est des stars mondiales, quoi.
Oui, parce que Will Smith, mine de rien, a été l'acteur le mieux payé d'Hollywood pendant 10 piges. Ouais. Et encore une fois, oui, c'est un acteur afro-américain, donc c'est dans un contexte c'est quand même exceptionnel, véritablement.
Exactement. Et donc là, on est vraiment sur un film qui change quelque chose pour plein de gens.
Et si on le compare, Michael Bay, comme ça, quand je vois Bad Boys, j'ai vu Bad Boys, je pense beaucoup à Tony Scott, par exemple.
Ah bah, complètement.
Tu vois, je pense beaucoup au cinéma de Tony Scott, visuellement aussi similaire, à chercher toujours techniquement des choses et aussi à capter l'œil.
Tony Scott, il a plus la carte que Michael Bay. Enfin,
voilà, mais, il y a ce côté de carte, d'avoir la carte.
Mais oui, mais parce que aussi, Tony Scott, il a fait des films qui étaient peut-être un tout petit peu plus intelligents que ceux de Michael Bay. Enfin, en tous les cas, sur le scénario, et qui racontait quelque chose de plus, je sais pas, romanesque.
Oui, bien sûr.
Michael Bay, c'est pas ça. Michael Bay, c'est du plaisir immédiat. C'est, enfin, vraiment, lui, sur le coup, il a amené la génération MTV et tout ça au cinéma. Et c'est pas pour ça qu'il le fait mal. Mais oui, bien sûr, les cinémas se rapprochent. Mais Michael Bay, c'est encore aujourd'hui quelqu'un qui est capable de faire, là, le film sur Netflix, je me souviens absolument.
Six Underground,
qui est c'est le sale gosse du cinéma américain. Il va en Italie, il prend une voiture, il pète tout.
Il va à Florence, il défonce Florence.
Il défonce Florence.
Mais pourquoi?
Pour
pauvre
rien,
Florence.
En plus, le film est vraiment pas bon. Mais c'est un amuseur, je crois qu'il se revendiquerait tel quel, un entertainer. Parfois, il fait des films beaucoup plus discrets, des films qui lui tient à cœur. Pain and Gain, c'est vraiment un projet personnel, 13 Hours aussi. Donc là, d'un coup, c'est des films beaucoup plus intéressants, qui ont des choses à dire, qui sont même... Pain and Gain, c'est même un film assez politique, hein, sur Teen Wars aussi. Et donc, voilà, moi, je trouve pas que ça soit une arnaque, pas du tout. Enfin, je comprends qu'on puisse prendre énormément de plaisir devant ces films. Moi, ça a toujours été le cas.
Voilà.
Non, c'est pas vrai. Ça a pas toujours été le cas. Je vais être très honnête. Je pouvais vraiment pas dire que quand j'étais jeune, j'aimais Michael Bay. J'avais, comme tout le monde, je pense, cette espèce de petit mépris pour le tout image, le tout vulgarité. Mais en fait, quand on commence à le connaître un peu, quand on commence à connaître ses films, et quand on voit le niveau technique qu'il a, je pense qu'il y a un respect quand même.
On peut être qu'admiratif, véritablement.
Ouais, franchement, moi,
c'est vrai qu'il y a un art à faire tout péter à l'écran.
Ouais.
Et Michael Bay est à ce titre un immense artiste.
Excuse-moi, mais quand tu vois l'émission Lego Master,
l'épreuve
la plus courue, c'est prendre des Lego et les faire péter contre un mur, filmer ça au ralenti. Ben, Michael Bay, il fait ça depuis 1995.
Ben voilà, de Bad Boys, de Propaganda Film à Lego Master, on est là, la boucle est bouclée. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière. On va sans plus tarder glisser vers le second thème de cette année 1995. Nick LaPolice de Cut Killer, musique, vous l'aurez peut-être reconnu, effectivement, issue du film La Haine de Mathieu Kassovitz, qui va être un film au cœur de notre second thème. La Haine de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, Saïd Tagmaoui, Hubert Koundé, Et un film qui raconte, qui suit trois jeunes de banlieue au lendemain du tabassage par des policiers d'un jeune de quartier, Abdel, et qui se retrouve entre la vie et la mort. Donc on va suivre ces trois jeunes pendant tout le film. La haine, c'est donc le deuxième long métrage de Kassovitz, de Mathieu Kassovitz, après Métis en 93. Et Mathieu Kassovitz, c'est donc un réalisateur qui fera plus tard Les Rivières Pourpres en 2001, Gothica, L'Ordre et la Morale notamment. Et c'est également un acteur qu'on vous avez pu voir dans Amélie Poulain, Amen ou la série Le Bureau des Légendes. Alors La Haine, quand La Haine sort en 95, c'est un film qui est présenté au Festival de Cannes en 95 et qui a le prix de la mise en scène à Cannes, donc c'est pas rien du tout, et qui obtient même trois Césars l'année suivante, le César du meilleur film, le César du meilleur montage et le César du meilleur producteur à l'époque. Ces louanges critiques s'allient à des louanges publiques puisque le film amènera dans les salles plus de 2 millions de spectateurs, ce qui est également assez impressionnant. On a vu le synopsis de La Haine, on voit ce qu'il raconte. On peut rappeler effectivement que dans le contexte des années 90, La Haine sort dans un contexte où la France connaît depuis des années, depuis on va dire année après année, depuis 10 ans, une crise, on va dire, des banlieues. Les banlieues sont en effervescence, sont en rébellion, sont en colère. Il y a une colère, effectivement, qui gronde dans ces banlieues-là, qui monte année après année. Et du coup, les drames et les événements se succèdent. Et La Haine s'inscrit véritablement dans ce contexte-là. Qu'est-ce que La Haine et le succès de La Haine dit de la France des années 90
Mathieu Kassovitz, il dit qu'il voulait faire un film contre la politique Pasqua. Et Pasqua, c'est vrai qu'il a vachement marqué la fin des années 80 et le début des années 90.
Mmh. Pasqua qui était quoi, ministre de...
Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, je crois. Mais c'est, si tu veux, quand on parle ministre de l'Intérieur, et pas en des termes très très sympas, tu penses forcément à Pasqua.
Oui, pense à Sarkozy.
Oui, tu peux aussi penser à Sarkozy, mais on n'a pas le même âge. Et en fait, il était déjà ministre de l'Intérieur du temps de l'affaire Malik Oussekine, ce gamin qui s'était fait tabasser... par des flics en 86, et c'était encore lui qui était ministre de l'Intérieur quand il y a eu cette fameuse bavure qui a incité Mathieu Kassovitz à faire La Haine.
Le meurtre de Makome Bowole.
Exactement.
Par un policier, donc il y a un jeune qui s'est fait prendre une balle dans la tête dans un commissariat.
Alors, je ne sais pas quel est le terme légal.
Oui,
je ne sais pas si c'est meurtre,
c'est un meurtre, assassinat. Mais en tout cas, c'est un jeune qui...
Voilà, c'est un jeune qui...
a pris une balle dans la tête dans un commissariat. Et
alors qu'il n'avait pas... Enfin, il était, je crois...
Oui,
mais ils se sont fait arrêter avec des copains, je crois, pour genre du trafic de clopes ou un truc comme ça. Et donc, lui, il a fini... ils ont fini au commissariat.
En garde à vue,
lui, il a fini... Enfin, il est resté plus longtemps que les autres. Et effectivement, interrogé... Enfin, après, voilà, l'interrogatoire, intimidation par, je sais plus, c'est un inspecteur, il me semble, et qui, effectivement, le braque et
le coup part.
Enfin, voilà, en tous les cas, c'est la version officielle.
Ce qui a été rapporté. Et des émeutes ont suivi. Donc ça, c'était en 93, des émeutes ont suivi. Et tu dis que ça a inspiré Mathieu Kassovitz pour La Haine.
Oui, complètement. Ouais. Mais en fait, si tu veux, c'est au-delà de ces émeutes-là, je pense que c'est une politique générale.
C'est 10 ans de bavure, entre guillemets, policière, 10 ans de... Ça cristallise, c'est vrai qu'il y a une côté de ce film-là cristallise tout ce qui, depuis 15 ans, gangrène une politique policière française. Quoi.
J'allais dire, ça serait une photographie de l'époque s'il n'y avait pas eu des bavures un problème, voilà. Mais ça reste quand même effectivement une photographie de l'époque, cette France du début des années 90.
C'est vrai que c'est pas le premier à faire un film sur les banlieues, mais c'est vrai que le film s'ouvre, le générique du film La Haine s'ouvre sur des images des émeutes à Rouen, dans le quartier des Sapins en 94. Donc c'est un film qui commence littéralement en disant regardez, on va parler de ça véritablement.
Et ce qui est marrant, c'est que son point de vue, c'est trois jeunes, c'est cette France, cette fameuse France black blanc beurre. Et donc voilà, c'est ce trio là en fait qui raconte la France, quoi.
Mais c'est vrai que La Haine, c'est comme si on avait un journal télévisé qui nous venait directement sur l'écran de cinéma, ce qui en général est sagement séparé. On va dire qu'il y a le côté, il y a le cinéma et de l'autre côté, tu as la télévision. C'est-à-dire qu'il y a la réalité qui est bien encapsulée et gardée dans la télévision. Et le cinéma, lui, il a son petit monde un petit peu isolé. Et là, effectivement, La Haine nous dit, regardez, la France, dans les années 90, c'est aussi ça, c'est aussi ces problèmes-là.
Et puis surtout raconté par le point de vue de quelqu'un de jeune. Enfin, c'est-à-dire justement quelqu'un qui n'a pas de vision journalistique. En tous les cas, le regard n'est pas filtré par le journalisme. Donc lui, même si c'est réaliste, il a un point de vue beaucoup plus passionné, beaucoup plus investi. Donc c'est au-delà effectivement de la vérité qui enfin c'est la réalité effectivement qui s'invite dans le cinéma, mais c'est surtout le sacré point de vue d'un cinéaste quoi. Mm-hmm. Et là on découvre vraiment un metteur en scène, enfin clairement.
Bon, il avait donc fait Métis avant, qui était également aussi un film à charge, ou en tout cas cristallisé sur autre chose, mais aussi sur un problème de la société française à ce moment-là. Ouais. Et là, avec La Haine, on va dire qu'il étend son champ lexical et il va un peu plus loin, il creuse un peu la question. Mais c'est vrai que La Haine n'arrive pas non plus de nulle part, puisque donc là, on parle de films de banlieue. Les banlieues, c'est dans l'histoire française relativement récent. Ça vient des grands ensembles qu'on a construits dans les années 50, 60, 70 autour, en Ile-de-France, autour de Paris. Mmh. Et du coup, on a parqué des gens dans ces grands ensembles-là. Et du coup, c'est devenu des banlieues et ça a créé un contexte socio-économique d'êtres humains qui, du coup, a fait ce motif de la banlieue, véritablement. Casolis n'est pas le premier à faire un film sur la banlieue. Il y a beaucoup de films qui, dans les années 80-90, commencent à arriver sur le sujet, puisque du coup, c'est un nouveau ensemble, un nouveau motif. Alors, on a eu L'Aise-Béton de Serge Lepéron en 84, on a De Bruyère de Fureur de Brissot en 88, on a Guédigan qui fait L'Argent fait le bonheur, et après, du coup, en 95, on a du coup La Haine de Mathieu Kassovitz, mais il y a également Ma cité va craquer de Richer, il y a Rail de Thomas Gilou, 12 France de Malik Chibane, et Petit Frère de Jacques Doyon qui, quelques années plus tard. Donc, dans les années 80 et surtout 90, il y a au cinéma, dans le cinéma français, une résurgence, une apparition de ce qu'on appelle le banlieue film. C'est comme ça que un critique de Cahiers du cinéma l'a titré. Bah, tiens, il existe un banlieue film. Ouais. Moi, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'il existe vraiment un genre de film de banlieue? Est-ce que le cinéma de banlieue existe vraiment?
Enfin, tu peux parler de la banlieue avec plein de genres. Un film social et politique comme celui de Kassovitz, t'as Ma cité va craquer qui en plus je crois un peu emprunte au film de genre. Dans le contexte de la banlieue, tu peux raconter différentes histoires. Il peut y avoir des histoires d'amour, il peut y avoir des histoires, des enquêtes.
C'est vrai que dans les années 80-90, t'as quand même un point de vue qui ressort, qui est ce point de vue d'auteur sur une jeunesse de banlieue qui est donc jeune, bien sûr, masculine, du coup. T'as pas beaucoup de femmes. T'as quand même un point de vue et un portrait de la banlieue qui sort. Un réalisme social, véritablement, sur la banlieue, qui est un regard qui va évoluer, puisque après, plus tard, dans les années 2000, t'auras Banlieue 13, qui sera du coup plus quelque chose d'un actionneur, véritablement. Donc c'est à ce motif de la banlieue qui va évoluer, mais dans les années 80-90, t'as ce regard d'auteur.
Un peu sociologique,
C'est un peu sociologique.
Oui, bien sûr. Bah, je pense qu'effectivement, là, d'un coup, le cinéma s'empare un peu de la banlieue, mais c'est peut-être un poil plus intéressant quand le regard n'est pas forcément extérieur. Beaucoup reproché à Mathieu Kassovitz de ne pas y connaître grand-chose et pourtant, il a quand même... Enfin, je ne dis pas qu'il n'a pas saisi quelque chose. Au contraire, enfin, La Haine, ça saisit son époque et la France d'une manière saisissante.
Bah, c'est encore une référence aujourd'hui, 25 ans après.
Complètement.
Quoi.
Après, voilà, quand Richer fait Ma cité va craquer, je pense que Richer vient d'un milieu beaucoup plus populaire. Et est-ce que c'est pas plus intéressant ou en tous les cas un peu plus authentique? J'en sais rien. Mais je sais qu'après, voilà, Kassovitz, il est totalement conscient d'où il vient. Donc, il vient pas de la banlieue, quoi.
Et c'est un cinéma jeune, inspiré par le cinéma américain. Les Mario Van Peebles, les Spike Lee.
Ah oui, bah oui, ça c'est sûr. Enfin, quand tu vois La Haine, tu peux penser, oui, forcément, tu penses à Do the Right Thing, quelque chose qui s'embrase d'un coup, oui. Après, c'est pas les mêmes tons, c'est pas les mêmes manières de, tu vois, justement, Do the Right Thing, c'est très coloré, c'est très beau, c'est, voilà. Alors que La Haine, c'est complètement, j'allais dire, non esthétique, mais pas du tout. C'est réduit à son plus simple appareil de noir et blanc,
épuré.
Tout ça, épuré, ouais. C'est inspiré un peu par le cinéma américain, le cinéma afro-américain, à n'en pas douter. Mais je crois qu'il y a quand même aussi l'inspiration du cinéma social qu'il y a toujours eu en France dans les années 70. Donc je pense qu'il y a de ça aussi, il y a une tradition quand même du cinéma social français.
Qui avant montrait effectivement des classes populaires, alors peut-être effectivement plus blanches, plus de Paris, etc.
Ça,
etc.
Ouais,
et qu'avec les années 80-90, on met en lumière les communautés de banlieue.
Première et deuxième génération d'immigration. Enfin, bien sûr, pour le point de vue réaliste, il est là aussi. Mm. Bah, c'est pas qu'avant, c'était moins réaliste, c'était que les banlieues, elles ont vraiment changé. La population française, elle a changé. Et donc aujourd'hui, le regard, il est plein de vérité. Et il est jamais accusateur, il est jamais dans le jugement. Mm. On montre vraiment la France telle qu'elle est, quoi. Donc, et que le cinéma a pas forcément... que tout un pan du cinéma français, en tous les cas, ne regarde pas.
Le banlieue film, s'il y en a, c'est un film classe populaire avant
tout. J'ai
du
mal à encapsuler ce que ça peut être, le banlieue film.
Visuellement, cinématographiquement, la banlieue est un espace de cinéma qui est visuellement fou. Et d'ailleurs,
architecturalement...
La musique c'est... de Cut Killer, il y a ce plan effectivement qui vole au-dessus, entre les bars, sur la musique de Cut Killer qu'on a écouté au début du thème. Visuellement, en termes de cinéma, c'est impressionnant.
Visuellement, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et d'ailleurs, dans les prochains mois, vont sortir un film qui s'appelle Gagarine, qui est filmé donc, dans la cité Gagarine, et là, qui exploite à plein l'étrange beauté en fait, de ces bars d'immeubles. Enfin, voilà. C'est hyper facile à dire quand on n'y habite pas,
évidemment.
Mais,
on ne peut pas faire de la romantisation
des exactement. Cités, et d'ailleurs, je pense que le cinéma, à mon avis, à un moment, il faudrait l'étudier, mais je pense qu'à un moment, c'est emparé de ça pour en faire quelque chose de plus romantique que ça ne l'était. Ouais. Mais là, Gagarine, il y a de la poésie, il y a presque de la science-fiction. Mais en fait, là, sur le coup, oui, ça exploite à plein vraiment le potentiel visuel et architectural de ces banlieues-là, quoi. Donc effectivement, bien sûr que l'œil d'un cinéaste ne peut être que attiré par l'architecture
espaces,
de ces... Oui, c'est ça, ces espaces-là. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'Assovitz, il le fait très bien aussi, parce qu'il y a des plans, non seulement, mais aux halles aussi. Enfin, il y a quelque chose de... Il s'empare de l'espace urbain. Dans sa manière de faire, c'est quand même extrême. Enfin, il y a un œil derrière, on ne peut pas le nier, quoi. C'est puis, vraiment très beau, quoi.
Et puis, il est jeune, et puis la haine va le propulser un peu comme fer de lance d'une... un peu malgré lui, d'une nouvelle génération de cinéastes. C'est vrai qu'on lui pose la question, est-ce que vous avez lancé une nouvelle génération ? Est-ce que vous êtes l'instigateur d'une nouvelle pensée, etc., etc. Lui, il a un regard, après 25 ans après, il a un regard, on va dire, il répond à cette question. Il dit, c'est pas maintenant qu'on va le savoir, c'est dans 20 ans, dans des générations. C'est à ce moment-là qu'on va voir si les suivants ont été inspirés par ce que j'ai fait, véritablement. Il refuse ce statut qu'on lui donne de faire de lance d'une génération. Est-ce que Mathieu Kassovitz a des héritiers ? Et qui sont-ils ?
La réponse facile, c'est « Oh, il y a eu Les Misérables ». Et franchement, sans la haine, il n'y aurait pas eu Les Misérables. C'est sûrement très, très vrai, puisque de toute façon, la source, la manière d'exploiter une certaine colère en cinéma, on peut faire des parallèles. Je crois qu'il y a aussi... bizarrement beaucoup de gens qui ont été inspirés de lui en Angleterre, plus par exemple le cinéma de Noël Clarke au tout début avec Kid Ulthwood, Adulthood et tout ça, c'était des films, on appelle ça c'est des films presque de banlieue mais anglaise. Les Anglais sont complètement fans de la haine, c'est vraiment cette manière de filmer la jeunesse, voilà. En France, à part Les Misérables,
t'as une génération court-métrage quand même, avec
oui bien sûr, bah oui évidemment,
des réalisateurs,
oui, oui. Bah Ladjli d'ailleurs, hein, vient de là,
bien sûr,
Kim Chapiron
bien sûr, Romain Gavras
ouais, évidemment. Alors Kim Chapiron, il est peut-être un peu plus politisé, Romain Gavras c'est un peu moins, c'est plus un esthète, mais alors lui sur le coup qui a tout compris à comment filmer l'espace urbain, et il a fait quand même des clips assez incroyables. Donc oui, il y a cette génération-là, évidemment, est forcément inspirée de la haine. Après, là, aujourd'hui, par exemple, je vois plus des
éclairs.
Ouais, des éclairs.
Qu'une véritable génération.
Par exemple, Gagarine, dont je parlais tout à l'heure, c'est pas un film forcément qui est ultra politisé, ni dans la colère, ni dans la revendication. Mais par contre, le point de vue, ceci dit, science-fictionnel et esthétique et poétique, enfin, incontestablement politique.
Bien sûr. 25 ans après, j'aimerais terminer là-dessus, parce qu'on parle de la haine, bien sûr. J'aimerais juste terminer sur Mathieu Kassovitz. On est 25 ans après la haine. Je trouve moi personnellement que c'est un des réalisateurs les plus intéressants du cinéma français. Donc effectivement, il n'a pas fait de film de long métrage, il n'a pas réalisé depuis L'Ordre et la Morale en 2011, mais il a fait, on le rappelle, Les Rivières Pourpres, il a fait Babylon A.D. aux États-Unis et Gothica aux États-Unis également, donc des expériences qui sont un peu mal passées, mais c'est un réalisateur qui est passionnant et passionné et qui fait surtout l'acteur ces derniers temps. 25 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire du cinéma de Mathieu Kassovitz ?
Quelqu'un qui a fait qui a essayé de faire un cinéma commercial de fond. Bon, alors pas avec Les Rivières Pauvres et tout, mais par exemple, quand je pense à L'Ordre et la Morale, un cinéma engagé. Quoi,
un film sur L'Ordre et la Morale, sur les événements d'UVA, c'est ça, ouais. En Nouvelle-Calédonie.
C'est ça. Mais le fait qu'aujourd'hui, c'est presque une figure un peu controversée, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ça va pas du tout.
Il est grande gueule, entre guillemets. Quoi.
Il est grande gueule et en même temps, il assume que moyennement. Et c'est très difficile de vieillir quand on est Mathieu Kassovitz, j'imagine, parce que... on a été l'étendard d'une jeunesse comme ça un peu énervée. Je me souviens qu'au début il disait que la haine c'était soi-disant un film anti-flic et puis en fait il s'était ravisé en disant que c'était pas vraiment ça. J'imagine que c'est un peu difficile quand on est Mathieu Kassovitz, qu'on a fait des projets très commerciaux, qu'on a réussi. Comment on peut se revendiquer encore de cette France qui gueule, qui serait un contre-pouvoir? Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, qu'il y a ce vide, ce soit un contre-pouvoir énorme. Est-ce qu'on tient un personnage comme ça sur 30 ans? Comment on évolue? Comment on vieillit?
C'est du gâchis, selon toi?
C'est dur comme mot, parce qu'il nous a fait tellement de films magnifiques. Moi, c'est un mec que j'ai toujours bien aimé. Je trouve que déjà, c'est un très bon acteur. Et c'est un bon réal. Oui, en fait, ce qui est peut-être du gâchis, c'est que sa personnalité, ce qu'il est vraiment profondément, j'ai l'impression, l'empêche parfois de faire des films.
Faire des projets parce que les gens disent oh là là, non.
C'est ça. D'accord. Et ça, c'est du gâchis, oui, parce que finalement, il serait peut-être moins grande gueule, ou il aurait peut-être pas les réseaux sociaux, par exemple, ou il arrêterait de faire des sorties à tout va. Peut-être que finalement, ça serait l'un des meilleurs réalisateurs français qui travaillerait régulièrement. Et tout.
Bon, on espère en tout cas qu'il va nous faire un film prochainement, une prochaine réalisation. Ça fait 10 ans quand même qu'on attend ça. Mathieu Kassovitz, voilà qui conclut ce deuxième thème sur l'année 1995. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière. On est toujours avec Emma Spalacenta. Et on va glisser vers le troisième et dernier thème de notre émission. Come Here de Cat Bloom, musique issue du film Before Sunrise, la fameuse scène du disquaire dans Before Sunrise de Richard Linklater, film avec Ethan Hawke et Julie Delpy notamment, qui raconte l'histoire d'un jeune américain de passage en Europe, Jesse, qui va aborder Céline, une étudiante française, dans un train entre Budapest et Vienne. À Vienne, il lui demande de descendre pour l'accompagner dans une visite de la ville pendant les 14 prochaines heures. Céline, amusée, peut-être séduite même, va accepter de marcher avec lui et parler dans cette ville, dans cette capitale autrichienne. Alors du coup, on a voulu parler de Before Sunrise qui sort donc en 95, parce que déjà c'est un film formidable.
Qu'on adore tous.
C'est un film formidable, puis c'est une histoire de cinéma qui est atypique, puisque Before Sunrise va amorcer une trilogie de films. Le film connaîtra du coup une suite en 2004, Before Sunset, et un troisième film en 2013, Before Midnight, toujours avec les mêmes acteurs et les mêmes personnages. Et donc on a cette trilogie de films sur 20 ans, qui va donc suivre Jesse et Céline, Ethan Hawke et Julie Delpy, sur 20 ans de leur rencontre dans Before Sunrise, à la suite de leur relation, etc., etc., qui est du coup un projet qu'on regarde dans l'histoire du cinéma, qui est quelque chose qu'on voit très rarement dans l'histoire du cinéma, qu'on voit comme ça des gens vieillir sur 20 ans. Projet un peu fou du réalisateur Richard Linklater sur plusieurs décennies, que moi je rejoins à des portraits de cinéma qu'on a eu, comme ça me fait penser à Antoine Doinel par exemple, Truffaut et Jean-Pierre Léaud. C'est vrai que c'est des projets de cinéma où finalement le cinéma est transcendé par la vie. Et c'est vrai que c'est rare de voir des mêmes personnages sur plus de 20 ans.
Je pense que c'est vraiment des projets qui peuvent être faits que de manière un peu indépendante. Parce que ça ne peut pas être gangréné par une avidité ou un lapin du gain. Je pense que c'est vraiment effectivement des rencontres. Julie Delpy et Zano, qui ont fini par être co-auteurs des films suivants. Bon, déjà, ils ont beaucoup réécrit leur propre dialogue pour le premier film.
C'est vrai qu'au début, ils étaient juste acteurs sur le projet. Et sur les films suivants et les deux films suivants, il y a eu tellement un clic avec Richard Linklater qui sont devenus vraiment co-auteurs.
C'est des films de trio, quoi, vraiment. Voilà. Après, c'est très émouvant de voir ça. Surtout qu'à l'époque de Before Sunrise, on ne savait pas, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on est, un peu submergé par l'ampleur du projet. On se dit, waouh, quelle ambition.
Trois films sur 20 ans.
Ouais, c'est vraiment formidable. Peut-être même quatre un jour, on ne sait jamais. Donc, il y a une sorte d'ampleur du truc qu'il n'y avait pas à l'époque quand c'est sorti en 95. Il y avait juste Before Sunrise, ce petit film-là qui racontait une histoire d'amour.
Moi, j'ai raconté le synopsis du film. Pour les gens qui n'auraient pas vu Before Sunrise, alors déjà, allez le voir, c'est formidable. Ouais. C'est un film sur quoi, Before Sunrise?
C'est un film sur se préparer à être nostalgique de quelque chose. Alors, c'est ça qui est incroyable.
C'est beau, ça.
Ouais, mais Linklater, c'est quelqu'un déjà qui parle du temps tout le temps, qui parle de la nostalgie, qui essaye de capter des petits moments de rien. Et il en fait des grands souvenirs, en fait. C'est vraiment... Before Sunrise, c'est... c'est ça, c'est deux personnes qui n'ont que quelques heures pour être ensemble et être chacun dans le grand livre de l'autre, en fait.
Et c'est vrai que c'est des scènes où on les voit, ces deux acteurs, marcher dans Vienne. Donc déjà, Vienne est une ville formidable. Et en plus, on les voit donc évoluer dans Vienne et parler toute la vie,
parler
de l'amour, parler des relations, parler du travail, parler des hommes, parler des femmes, parler de qu'est-ce que c'est d'être humain, qu'est-ce que c'est de vivre finalement. Et à ce côté, deux heures de gens qui parlent de la vie.
Bah oui, parce que comme ils savent qu'ils vont se séparer le lendemain matin, ils sont dans une logorée. Ils veulent tout dire, ils veulent tout faire pour être sûrs d'être allés au bout de leur truc. Et puis il y a la timidité, c'est un film absolument, c'est un film romantique, comme on en fait très très peu après, parce que
c'est un film culte quand même. J'allais dire une comédie romantique. Non, c'est un film romantique culte, quand même pour toute une génération.
C'est ça. Et en fait, ce qui est très dommage, c'est que le cinéma a tendance à valoriser la rom-com.
Oui, la comédie romantique.
Voilà, et beaucoup moins les films romantiques. Et ça, c'est faut accepter que ce soit
Une
bluette, quoi. Mais vraiment très bien fait, magnifiquement filmé, incroyablement joué et raconté avec une délicatesse incroyable, quoi.
Et donc Richard Linklater, réalisateur de Génération Rebelle, School of Rock avec Jack Black, de Boyhood que vous avez forcément vu, de Scanner Darkly, il mélange un peu ses films plus populaires et des projets artistiques complètement atypiques. Ouais. Donc c'est un réalisateur qui est vraiment passionnant et qui, tu l'as dit, à cette notion de temps au cœur de son cinéma. Il adore faire des projets autour du temps. Donc effectivement, on part de Before Sunrise, la trilogie Before tournée sur 20 ans. On a Boyhood qui a été tourné effectivement, qui est sorti en 2012.
Ouais. 2h45 où on voit les gens vieillir sur 12 ans.
Voilà, qui a été tourné pendant 10 ans, pendant 12 ans. Donc c'est effectivement un projet assez fou. Et là, il est en train de tourner sur les 20 prochaines années un film qui s'appelle Merrily We Roll Along, qui est un film dont le tournage a déjà débuté et qui devrait sortir en 2039.
Bah oui.
Et du coup, effectivement, il va comme ça tourner sur 20 ans et ça racontera comme ça une amitié, il me semble, entre trois personnages sur 20 ans. Il a déjà tourné la fin et il va tourner le début dans 20 ans.
Ça tombe bien parce que je pense que dans 20 ans, on dira que c'est l'un des réalisateurs américains les plus importants.
C'est vrai que moi, c'est un réalisateur qui me passionne et j'ai eu la chance de l'interviewer, lui et Ethan Hawke, quand ils sont venus à Pompidou il y a 2 ans. Et du coup, j'ai demandé à Linklater, pourquoi tu fais un film sur... je ne le tutoie pas, mais dans ma tête, c'était ça. Mais écoute, Richard, écoute, Ricky, pourquoi tu fais un film sur des gens qui parlent véritablement? C'est quoi le point de départ de ton film? Et en fait, il disait, j'étais avec une fille et on parlait, la soirée se passait bien et c'était cool et on parlait de tout. Et vous connaissez, cher auditeur, ce moment où t'es avec quelqu'un et ça se passe bien. Et il était avec cette fille et il s'est arrêté. Il dit, tu vois, j'aimerais bien faire un film là-dessus. Et la fille, elle lui a dit, mais quoi, on fait rien, on est juste en train de discuter. Il me dit, oui, justement, on est juste en train de... Il y a un truc qui se passe entre nous qui est indicible. Il y a cette relation, ce courant qui passe, qui est indicible, qu'on ne saurait dessiner, qu'on ne saurait décrire. J'ai envie de faire un film là-dessus. Et c'est de là qu'est partie cette idée de Before Sunrise et après de la trilogie Before.
En fait, il arrive à capter quelque chose qui est assez incroyable, c'est ce moment de partage. Alors, plus ou moins long, le moment. Mais par exemple, Last Flag Flying, qui est sorti en 2017, qui est la suite spirituelle, mais en fait, suite quand même de La Dernière Corvée de LHB. C'est en fait le personnage de Steve Carell qui doit aller chercher le corps de son fils qui est décédé à la guerre. Et il capte quelque chose de l'amitié masculine notamment. Et le film, il est hanté par la mort et le souvenir. Mais c'est un peu pareil aussi dans Everybody Wants Some. Alors c'est beaucoup plus festif et tout, mais il raconte rien dans Everybody Wants Some. Il raconte des gars qui sont à la fac ensemble, voilà, et qui habitent ensemble. Et en fait, je trouve que c'est un grand cinéaste pour capter presque du rien. En fait, il écoute des personnages parler, faire des trucs. Alors déjà, il est vraiment très très doué pour dessiner des personnages. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Et donc, c'est des films qui passent un peu inaperçus comme ça et qui sont vraiment des moments de pure grâce, quoi.
C'est pas anodin que le Centre Pompidou lui ait fait une exposition, où on pouvait voir beaucoup de ses, parce qu'il est vidéaste aussi, beaucoup de ses œuvres vidéo. Notamment toujours encore sur cette notion de temps. Il y a, je ne sais plus le nom de son court-métrage ou de son film, où il se filme littéralement lui-même en train de faire rien. Il se filme en train de se lever.
En fait,
il se filme
en train de...
Il suspend le temps vraiment à travers ses films.
C'est très impressionnant parce que souvent, les réalisateurs, je pense que c'est une obsession chez certains réalisateurs de parler du temps. Enfin, le cinéma, ce n'est que ça. Enfin, on n'a qu'à voir les films de Nolan et puis voilà. Mais lui, il a cette manière de suspendre le temps qui est quand même incroyable.
Bah justement, quand je lui posais la question, il m'avait dit, il avait cette citation, il disait « J'ai souvent utilisé le temps comme structure de mes films, car c'est selon moi le plus proche de notre vision du monde. On est tous sur cette même grille temporelle et nos vies à tous sont jalonnées en années, en semaines et en jours. » Donc pour lui, c'est une sorte d'évidence de se raccorder au temps pour raconter ses films. Pour revenir sur le sujet de Before Sunrise et cette fameuse « Comment faire un film sur l'indicible » et cette connexion entre deux gens, dans Before Sunrise, t'as Céline qui a une citation qui encapsule complètement ce dont on est en train de parler et qui dit « S'il y a de la magie dans ce monde, elle doit être dans cette tentative de comprendre quelqu'un et de partager quelque chose. » Et Linklater, t'as l'impression qu'il a juste envie de filmer cette magie qu'il y a de échanger et de comprendre quelqu'un.
Et c'est exactement ce que je te disais sur il le fait de manière romantique là, mais il le fait de manière fraternelle dans Last Flag Flying et dans Everybody Wants Some. Et quand il le fait, moi je
même les liens familiaux dans Boyhood, c'est comment il filme les liens
humains.
Ce qu'il
y a entre les gens.
Ouais.
Filme un espace
qui est invisible.
C'est ça. Et donc c'est assez dingue. Pour moi, c'est un des réalisateurs les plus passionnants.
Toi qui connais bien le cinéma américain, quelle place tu lui donnerais, Richard Linklater, dans le cinéma américain ?
Je sais pas si je peux lui donner une place, mais en tous les cas, je trouve qu'il a parfaitement réussi le mariage entre le cinéma commercial. Enfin, il fait des films commerciaux qui sont ce qu'ils sont, et en même temps, c'est quelqu'un qui encore est en recherche artistique permanente. Donc c'est qui n'est pas du tout, je crois, motivé par l'appât du gain. Parce que il fait ses films commerciaux pour pouvoir
financer ses projets personnels.
Donc en fait, c'est marrant parce que je crois que c'est un peu le père de tout le cinéma indépendant aujourd'hui. C'est-à-dire, il a trouvé un équilibre absolument parfait que la plupart des cinéastes indépendants aujourd'hui n'arrivent pas à trouver. Ouais. Et lui, il fait. Mais bon, il a plus de. Aujourd'hui, je crois qu'il a quoi ? Il doit avoir plus de 55 ans ou quelque chose comme ça.
Hein. Il a déjà une énorme filmo derrière lui.
Et surtout, ce qui est terrible avec lui, c'est qu'on imagine tout ce qu'on n'a pas vu. Parce qu'il est tellement en recherche permanente de forme et de récit qu'on se dit que c'est un type qui doit avoir des milliers et des milliers d'heures de trucs filmés dont il ne sait absolument pas quoi faire, ou alors qu'il sait quoi faire, mais il nous le réserve pour dans 20 ans. Et je trouve ça, pour moi, c'est vraiment un coffre au trésor, quoi. Il est extrêmement précieux, je trouve.
Un cinéaste précieux.
Oui.
Voilà,
comme ça que je dirais.
Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, toi, sur Before Sunrise ?
Je dis, si le cinéma romantique se perd vraiment. Il y a un manque de ça au cinéma. C'est comme si le cynisme de l'époque avait un peu repoussé le genre en marge, alors que c'est un vrai... Et beau et noble genre du cinéma.
Comme il y avait un art pour du Michael Bay et faire péter des trucs, il y a un art pour filmer les liens invisibles entre les gens. Mmh. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qui est magnifique au cinéma ?
C'est ça. C'est que le Linklater, je pense que c'est exactement l'inverse de Michael
de
Bay. C'est-à-dire que là, on n'a pas pu faire plus grand écart que celui qu'on a fait aujourd'hui.
Oh, maintenant, j'ai envie de voir un double feature. Transformers Before Sunrise.
Non, mais t'imagines, en 95, quand t'as 15 ans et tu regardes Before Sunrise, et puis quelques mois ou quelques semaines après, t'as Bad Boys qui sort, quoi. Mais ceci dit, ça te forme une...
Mais les deux sont passionnants, regarde. Mm-hmm. Voilà qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème de notre émission sur 95. Mais avant de vous quitter, bien sûr qu'on va s'en retourner vers notre petite recommandation de fin d'émission, comme d'habitude. Alors toi, tu avais des recommandations, Emma, tu en avais deux.
J'ai triché.
Des films à voir, des films que tu as envie. Donc c'est bien sûr, ces recommandations de fin d'émission, ça nous permet à nous de parler de nos films de cœur qu'on n'a pas pu forcément évoquer dans les trois grands thèmes de notre émission. Toi, Emma, du coup, t'as un peu triché, mais c'est pas très grave parce que c'est des films qui sont sortis certes aux États-Unis en 94, mais qui sont sortis en 95 en France. Et du coup, effectivement, on les inclut dans tes recommandations. Tu voulais nous parler de... Tu voulais commencer par quel film ?
Génération 90, que moi j'ai découvert en 95 et qui m'a tellement formé en fait que c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur et que j'ai insisté pour en parler ici, parce que Génération 90, c'est donc le premier film de Ben Stiller. Et ça encapsule en fait quelque chose de la génération Y.
La génération Y, qui est MTV. D'accord, MTV, d'accord.
Non, mais c'est cette génération-là, MTV, donc c'est-à-dire c'est des jeunes, donc c'est l'histoire de jeunes comme ça qui vivent ensemble, qui sont un peu amoureux. Et on a Winona Ryder qui qui veut faire de la vidéo. Et en fait, à un moment, elle est embauchée par Ben Stiller, d'ailleurs. Elle est embauchée dans cette grande chaîne et elle fait de la merde, elle fait de la télé-réalité, elle en peut plus et elle a des exigences artistiques. Et en même temps, elle vit avec son colocataire, c'est Ethan Hawke, qui est comme ça le
Ethan Hawke encore.
Ouais, hein, bah ouais, on l'adore. Et donc... lui, c'est un cynique, un nihiliste, un peu. C'est vraiment la génération grunge, nos futurs, tout ça.
Bon, c'est David Fincher.
C'est un peu ça. Et donc, voilà, c'est un film vraiment sur la jeunesse de l'époque. Moi, ça m'avait vraiment touchée à l'époque. C'est
le film de ton émancipation cinéphilique, quand même, tu l'as dit.
Complètement,
au début de l'émission.
Je l'ai dit. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce que c'est un film que je tiens en haute estime, alors que souvent, quand je le montre, les gens me disent « je comprends pas trop ce que tu veux dire ». Et en fait, ça a sûrement touché une époque ou, en tous les cas, une atmosphère ou une mode ou je ne sais pas qui, en tous les cas, qui en 1995 cristallisait quelque chose d'incroyable.
Et premier film de Ben Stiller,
ouais.
qui est un acteur, bien sûr, que tout le monde connaît et qui est un réalisateur beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît.
Ouais, complètement. Alors après, il a fait, il a enchaîné sur, je crois, c'est The
Cable Guy,
Tropic Thunder, Zoolander, mais... En fait, si on doit...
C'est Walter Mitty aussi, non ?
Voilà.
Et formidable, Walter
en fait, Mitty. Le truc, Génération 90, c'est pas une vraie comédie. On n'est pas dans Tropic Thunder, on n'est pas dans The Cable Guy, on est plus...
Une comédie mélancolique, finalement.
Ouais, voilà. Voilà, la mélancolie. C'est exactement ça. Et c'est un premier film, ça montre vraiment son amour des acteurs. Et je trouve que voilà, ça captait quelque chose d'intéressant.
Donc, Génération 90, ouais. Reality Bites en
c'est
anglais.
C'est ça, exactement. Voilà. Trouvable, hein, je crois.
Moi, ma petite recommandation pour 95, alors c'est un film dont on a hésité à en faire un thème à part entière parce que c'est un film extrêmement important en 95, mais on l'a gardé finalement pour une recommandation à la fin. C'est évidemment, vous l'avez tous vu, c'est Toy Story, réalisé par John Lasseter avec les voix de Tom Hanks et Tim Allen. Premier film, premier long métrage, pardon, des studios Pixar. Et je voulais effectivement en parler en cette fin d'émission, notamment parce que c'est un film qui est extrêmement important, puisque c'est le premier film entièrement en images de synthèse. Et c'est, à mon sens, un film qui va complètement métamorphoser, bousculer, bouleverser l'industrie du cinéma d'animation mondiale et aussi une industrie même du cinéma américain en règle générale, puisque c'est un film qui va réaliser 373 millions de dollars dans le monde, qui va avoir des Oscars, qui va être à l'époque de sa sortie le troisième plus gros succès d'un film d'animation après Le Roi Lion et Aladdin. Donc encore une fois, je le rappelle, c'est le premier film de Pixar, d'un studio qui aujourd'hui est une évidence mais qui à l'époque était inconnu, et qui sort, ce studio inconnu, un film entièrement fait par ordinateur, qui est déjà une prouesse technologique à l'époque. Et ce film devient un méga succès, devient une évidence, et du coup, toute l'industrie va arrêter de faire, dans les années qui suivent très très rapidement, des films en animation 2D, donc des films dessinés véritablement, et va se tourner en l'espace de 10 ans vers de l'animation 3D, qui aujourd'hui est la norme véritablement. C'est-à-dire que Pixar, avec ce film Toy Story, a changé un panorama de cinéma, et Disney, par exemple, qui était le roi du monde en 95, se retrouve en 2005 à être derrière Pixar et à galérer à faire des films en 3D parce que c'est un outil qu'ils ne connaissent pas, etc. Donc je voulais parler effectivement de Toy Story parce que c'est un film qu'on aime tous, bien sûr, parce qu'on l'a tous vu et qui est un film formidable. C'est
un poil
film...
vieilli quand même, hein.
Ah bah c'est vrai que la 3D en 25 ans, ça a effectivement un poil vieilli, mais c'est un film fondateur qui a bien sûr lancé trois suites qui sont toutes formidables, et c'est un film du coup qui a bouleversé une industrie, donc ce qui n'est jamais anodin. Voilà, donc je voulais, moi, c'est ma petite recommandation, vous revoyez pour la millième fois Toy Story, parce que bon, finalement, c'est un film qui est très bien comme ça. Tu avais une deuxième recommandation, Emma, à nous conseiller, dis-moi.
Pareil, c'est sorti en 94 aux États-Unis, mais en 95 en France, c'est Crooklyn de Spike Lee, et il sort même entre Malcolm X et Clockers. Et
il arrive juste après Malcolm X,
ouais,
qui du coup
donc,
extrêmement connu, quoi.
Extrêmement imposant, fresque énorme, biopic, enfin un truc vraiment, c'est... du cinéma extrêmement imposant. Et puis d'un coup, juste après ça, il fait ce petit film très coloré, une comédie comme ça, de cette petite nana avec ses frères. C'est une vraie déclaration d'amour de Spike Lee au cinéma. Et surtout, c'est un film extrêmement autobiographique puisqu'il parle en creux. Il l'a coécrit avec deux de ses frères et sœurs. Et en fait, il parle en creux de la manière dont sa mère est décédée très brutalement.
Elle nous raconte quoi, le film ?
C'est la vie à Brooklyn d'une petite famille, d'une petite fille en tout cas. Mmh. On est sur la chronique familiale, donc très autobiographique. Mmh. C'est très coloré. Il y a une bande originale de dingue. Il est complètement passé inaperçu. Il y a même un moment, une toute petite expérimentation, parce qu'il a, avec des lentilles anamorphiques, bref, il a écrasé le film sur les côtés. Tous les gens pensaient que c'était une erreur technique. Or, c'était, lui, il avait pensé ça comme un outil de storytelling, parce que c'est au moment où cette petite fille s'extrait de son, de, du milieu où elle vit pour aller ailleurs. C'est ça qui est, je trouve, toujours charmant chez Spike Lee. C'est cette manière dont il ne s'excuse pas d'avoir essayé de faire des choses, même quand elle rate. On oublie à quel point c'est un vrai sentimental et un vrai quelqu'un qui aime le cinéma au point d'essayer de, et de rater. On le décrit toujours comme un type extrêmement sûr de lui, toujours persuadé de faire des chefs-d'œuvre et tout, et au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà,
c'est
qui...
un expérimentateur,
ouais,
véritablement.
Beaucoup plus que ce qu'on pense.
Et d'ailleurs, c'est le prochain président du président du prochain festival de Cannes 2021, s'il a lieu.
Ouais.
Touchons du bois.
Ouais, touchons du bois.
Merci beaucoup en tout cas de ces recommandations. Donc, on a Génération 90, premier film de Ben Stiller, et Crooklyn, film de Spike Lee. Ce sont les deux recommandations d'Emma. Voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré donc à 95. J'aimerais avant tout remercier mon invité Emmanuel Spalacenta. Merci beaucoup, Emma.
Mais merci à toi.
C'était très très cool. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur, bien sûr, et Tsugi Radio qui nous accueille dans son studio de la Villette à Paris. Remerciements tout particuliers à Antoine, bien sûr, à la réalisation. Je rappelle enfin que Année Lumière a désormais son Tipeee. Si vous aimez l'émission, vous pouvez ainsi la soutenir, même modestement, et vous pouvez le faire sur tipeee.com/Année Lumière. Un dernier grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et à suivre les dernières infos de l'émission sur le compte Twitter d'Année Lumière. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut, salut !